Maintenant le professeur Sandrine Andrieux, donc qui va répondre, madame, aux questions que vous vous posiez sur les facteurs de risque. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes Sandrine Andrieux, professeure des universités, praticien hospitalier en santé publique au CHU de Toulouse, responsable de l'équipe de recherche Aging et présidente du Conseil scientifique de France Alzheimer. Donc on va parler naturellement de ce sujet qui a été évoqué tout à l'heure par l'une de nos participantes. Qui est à risque? Suis-je à risque? Comment peut-on prévenir cette maladie? À vous.
Alors, je ne sais pas si on va pouvoir répondre à toutes ces questions. En tout cas, on va se poser beaucoup de questions dans cette présentation. D'abord, je voudrais remercier la Fondation IFRAD, Recherche Alzheimer, parce que je pense que les associations de famille, les fondations, jouent un rôle important dans la recherche et ce n'est pas souvent dit. Donc voilà, merci à ces fondations de jouer un rôle non négligeable dans la recherche. Alors, prévenir la maladie d'Alzheimer, qu'est-ce que ça veut dire? Prévenir, c'est un terme qu'on utilise comme ça, en disant on va prévenir, la prévention, et on fait l'hypothèse que tout le monde sait de quoi on parle. Prévenir, ça veut dire deux choses. Ça veut dire soit mettre en place des actions pour éviter la survenue de la maladie, soit mettre en place des actions pour faire en sorte que cette maladie soit moins grave et des conséquences moins lourdes si on agit à des stades très précoces. Le problème de la maladie d'Alzheimer, alors ça a été évoqué par les deux Bruno, c'est que c'est une maladie qui est très particulière, elle est insidieuse. Pendant des décennies, la maladie existe, c'est-à-dire les anomalies biologiques sont là, mais elles ne s'expriment pas. Alors pour mettre en place des stratégies de prévention, c'est peut-être un moment idéal, puisque finalement c'est un temps de latence pendant lequel on peut mettre en place des choses pour éviter que les choses ne s'aggravent. Mais ça, du coup, ça devient de la prévention que l'on va dire secondaire parce que les choses ont déjà commencé. Et donc, de façon très intéressante, il faudrait aller même en amont, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle la prévention primaire, et c'est plutôt de ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire de mettre en place des actions avant toute apparition d'anomalies biologiques, que ce soit des plaques amyloïdes, que ce soit la dégénérescence neurofibrillaire. Alors, sur quel facteur on va agir? Alors, tous les jours, on nous sort un nouveau facteur de risque ou un nouveau facteur protecteur de la maladie d'Alzheimer. Tous les jours, on entend un facteur nouveau et quelquefois, quelques temps après, ce facteur n'existe plus. On ne parle plus de celui-ci, on parle d'autres facteurs. Tout simplement parce que les études n'ont pas la même valeur et plus ça va, plus on peut accumuler un certain nombre d'évidences scientifiques et qui font que ce qui est très vrai hier ne l'est plus, ou en tout cas on connaît avec un meilleur niveau de finesse les facteurs de risque. Alors quand on regarde la vie d'un individu qui ne commence pas à sa naissance, qui commence avant, dans le ventre de sa mère, eh bien dès ce moment-là on est exposé à un certain nombre de facteurs qui peuvent avoir des conséquences sur le risque de survenue de la maladie d'Alzheimer. Alors, in utero, c'est-à-dire pendant les 9 mois, à peu près, grosso modo, dans lequel nous baignons dans le ventre de notre mère, nous sommes exposés à des facteurs. Nous sommes exposés aux facteurs de celle-ci, c'est-à-dire la façon dont elle se comporte, qu'est-ce qu'elle consomme sur le plan nutritionnel, quel est son mode de vie. Et puis, bien évidemment, il y a les facteurs génétiques dont on a parlé tout à l'heure. Alors, je ne vais pas en parler forcément plus en détail, parce qu'il y a deux types de maladies d'Alzheimer. Il y a les formes familiales, elles sont extrêmement peu nombreuses, c'est moins de 5% des cas de maladie d'Alzheimer. Elles correspondent à des formes très particulières qui démarrent plus tôt, qui ont une forme évolutive un petit peu différente. Dans la grande majorité des cas, les formes, même si notre père ou notre mère a été atteint, et même si on a eu une grand-mère et une tante, etc., tout ça n'en fait pas une forme familiale. On a des formes, on appelle ça des prédispositions génétiques, mais pour autant, ce ne sont pas des formes familiales de maladie d'Alzheimer. Donc on a d'un côté des formes familiales très particulières, très peu nombreuses, et de l'autre côté des facteurs génétiques qui font qu'on est un petit peu plus à risque de développer la maladie. Alors les facteurs génétiques, pendant très longtemps on a parlé de la polypoprotéine E, de l'allèle E4 de la polypoprotéine E, qui est une protéine qui nous sert aussi pour faire circuler un petit peu le cholestérol. Donc les cardiologues étaient déjà très au fait de ces facteurs-là. Ça reste un facteur important. Depuis peut-être 20 ans, on a une connaissance qui s'est formidablement accélérée en matière d'amélioration des facteurs de risque génétiques, mais pour autant, le poids de ces facteurs de risque, aujourd'hui, n'a quand même rien à voir avec le facteur de risque que l'on connaissait il y a 20 ou 30 ans. Donc, il y a beaucoup de nouveaux facteurs de risque génétiques, mais très peu ont le même poids que celui dont on parle depuis très longtemps. Alors, c'est dommage que Bruno Vella soit parti, parce que, quand même, le principal facteur de la maladie d'Alzheimer, c'est l'âge. Mais l'âge chronologique, c'est-à-dire le temps qui sépare notre naissance de ce jour-là. Et cet âge-là, quand on regarde par tranche d'âge chronologique, c'est-à-dire l'âge administratif, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on augmente en âge, enfin, quand on avance en âge, le risque de développer la maladie d'Alzheimer augmente de façon exponentielle. Il n'augmente pas exactement de la même façon chez les hommes et chez les femmes. Chez les hommes, ça commence un petit peu avant, le risque de développer la maladie d'Alzheimer, avec une augmentation lentement progressive, enfin quand même progressive. Et chez les femmes, on a l'impression qu'il y a un petit décrochage, qu'il y a un croisement des courbes après 80 ans. Donc toutes les raisons de cela ne sont pas forcément expliquées aujourd'hui. Puis on avance dans le temps, on arrive au niveau de l'enfance, de l'adolescence et de nos périodes passées sur les bancs de l'école. Et l'éducation, on sait aujourd'hui que c'est un facteur très important, non pas dans le fait qu'il peut éviter la survenue de la maladie d'Alzheimer, mais en tout cas, elle ne va pas s'exprimer de la même façon ni au même moment. Et alors, en France, il y a quelque chose qui est assez important. Là, c'est une publication qui est parue il y a 2 ans. Ils ont regardé en France quel était l'impact de la réforme Berthouin. La réforme Berthouin, c'est dans les années 67, où on a passé l'école obligatoire de l'âge de 14 ans, la durée de l'école obligatoire, de 14 ans à 16 ans. Et certains se sont amusés à regarder l'impact de ces 2 années de plus obligatoires à l'école sur le niveau des fonctions cognitives à un âge plus avancé, c'est-à-dire après 45 ans. Et en comparant les cohortes juste avant cette réforme et juste après cette réforme, ils se sont aperçus que finalement, il y avait une très nette amélioration des fonctions cognitives, plutôt chez les hommes que chez les femmes d'ailleurs, on pourra en rediscuter. Mais donc il y a un effet bénéfique du fait de passer 2 ans de plus à l'école. Alors souvent, quand je présente ce genre de diapositive, et puisque j'en présente beaucoup d'autres, donc on évoque la réserve cognitive dont on a parlé tout à l'heure, mais les gens nous disent « moi, je n'ai pas fait beaucoup d'études, alors finalement, qu'est-ce qu'il en est pour moi ?» Eh bien justement, pour vous, ce n'est pas grave, parce que les choses se rattrapent. Donc ça, c'est une étude américaine qui date. Je n'ai pas encore trouvé mieux, mais je suis sûre qu'on peut y arriver. C'est une étude qui montre que chez 1000 sujets qui avaient été évalués au moment de l'entrée dans l'armée, donc ce ne sont que des hommes, chez qui on a fait des tests de quotient intellectuel et des tests de performance cognitive à l'âge de 20 ans à peu près, avant qu'ils partent à l'armée. Et puis ensuite, ils ont été suivis dans le temps. Et les fonctions cognitives ont été réévaluées dans le temps. Et à peu près à 71 ans d'âge moyen, les choses ont été évaluées. On a comparé l'amélioration des fonctions cognitives en fonction de la profession de ces sujets. Et on s'est rendu compte que chez des sujets qui avaient des performances cognitives très basses au départ, qui sont les sujets ici, là, qui avaient des performances basses au départ, eh bien, ils ont rattrapé le retard s'ils avaient une activité professionnelle stimulante. Donc, vous voyez que ce n'est pas simplement le niveau d'éducation à un instant T, c'est aussi ce qu'on en fait tout au long de la vie. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire, et c'est aussi le fait de bénéfique des interventions dont on pourra discuter tout à l'heure. Et puis après, tout au long de notre vie, finalement, et je n'ai pas mis d'âge particulier, même s'il y a un beau graphique que je reprendrai, celui qu'a présenté tout à l'heure Bruno Dubois, finalement, c'est tout au long de notre vie qu'on est exposé à des facteurs qui sont maintenant bien connus, notamment les facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, on connaît mieux l'effet de l'hypertension et du diabète, je dirais, plutôt que de la sédentarité et de l'hypercholestérolémie sur le risque de survenue de maladie d'Alzheimer. Mais je vais vous expliquer aussi comment les choses sont compliquées. L'hypertension artérielle, par exemple, c'est un facteur assez délétère, si on ne fait rien, quand on est exposé à l'âge moyen de la vie, c'est-à-dire entre 45 et 60 ans. Si on a une hypertension artérielle, il faut la traiter. Il faut la traiter de façon optimale parce qu'on sait que celle-ci va conduire à un risque plus élevé de développer la maladie d'Alzheimer à un âge plus avancé. En revanche, si on a 90 ans et qu'on a une hypertension artérielle, bien, l'effet délétère sur le risque de survenue de la maladie d'Alzheimer est moins important. Alors, il y a des phénomènes de biais méthodologiques, enfin, il y a des choses très techniques sur lesquelles je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons que c'est pour ça aussi que quelquefois, les messages sont complexes en termes de santé publique, parce que le même facteur, selon que l'on soit exposé à ce facteur à l'âge de 35-45 ans ou à l'âge de 65-75 ans, ça ne va pas avoir le même poids sur le risque de survenue d'une maladie qui est la même, hein, la maladie d'Alzheimer. Donc on a des facteurs très connus comme l'hypertension, le diabète, l'obésité, l'hypercholestérolémie qui conduisent à un risque plus élevé de développer la maladie d'Alzheimer. En matière de mode de vie, la sédentarité est un très mauvais facteur. Heureusement qu'on a monté tous ces étages-là pour venir ici, parce que là, ça fait 2 heures que vous êtes, un peu plus même, que vous êtes assis. C'est très mauvais, donc je ne vais pas parler longtemps, parce qu'il va falloir bouger. C'est très mauvais. La sédentarité, c'est très mauvais. Je mets volontairement sédentarité plutôt qu'activité physique. L'activité physique, c'est bénéfique. Bouger, c'est bénéfique. Tous les travaux le montrent, hein, plus on bouge, alors quelle que soit la façon dont on le mesure, soit par le nombre de pas cumulés, le nombre de pas d'étages montés, etc., quelle que soit la façon dont c'est mesuré, on sait que l'activité physique a un effet bénéfique sur le risque de survenue de la maladie d'Alzheimer, le risque de survenue de tout un tas de maladies chroniques d'ailleurs. Hein, donc finalement, même si ça a moins d'effet sur la maladie d'Alzheimer, croyez-moi, ça nous rappe sur d'autres types de maladies chroniques, et donc il ne faut pas s'en passer. Dit-elle. Le tabagisme aussi, le tabagisme et l'alcool, ce sont des facteurs qui ont été longtemps difficiles à analyser, donc on pourra en reparler, mais le tabac, c'est très délétère pour le risque de survenue de maladie d'Alzheimer, et l'alcool aussi. Alors quand on parle d'alcool, il y a toujours ces travaux bordelais qui reviennent, hein, à Bordeaux. C'était plutôt bénéfique de boire un petit peu de vin de façon régulière et sans excès par rapport au fait de ne pas boire. Ce n'est pas pour autant qu'il faut se mettre à boire, parce que c'était dans des cohortes de personnes qu'on commençait à observer après 65 ans. Mais finalement, il y a depuis de nombreux travaux qui montrent que l'alcoolisme, en particulier la prise excessive d'alcool, est particulièrement délétère pour ce type de maladie. Et puis, ce qui va avec la dépression, l'isolement social, tout ce qui fait que la personne a moins d'échanges avec d'autres, est aussi particulièrement délétère sur le risque de maladie. Dans les antécédents, il y a des facteurs un petit peu nouveaux là, qui sortent depuis quelque temps. Depuis très longtemps, les traumatismes crâniens ou les micro-traumatismes, vous savez, chez ces footballeurs là, qui tapent avec leur tête là, le ballon, les boxeurs aussi, toutes ces professions, parce que ce sont des professions quand même, sont particulièrement à risque. Et plus récemment, de plus en plus de travaux montrent que les troubles sensoriels doivent être pris en charge, doivent être compensés, en particulier les troubles auditifs, parce que finalement, ils conduisent à un isolement social, hein, tout simplement. Hein. Alors, c'est difficile, hein, et je vais vous montrer comment c'est difficile l'épidémiologie, mais c'est difficile parce que quand on prend un facteur, si on l'isole, automatiquement, on peut avoir un nombre important de facteurs de risque qui vont augmenter le risque de survenue de la maladie d'Alzheimer, pris isolément. Mais si on regarde la chaîne d'enchaînement de ces facteurs les uns par rapport aux autres, là, ça devient très compliqué. Et peut-être qu'une perte auditive non compensée conduit à un isolement social, qui conduit à une dépression, qui peut conduire aussi à une maladie d'Alzheimer. Et puis, plus récemment, il y a des travaux sur la pollution de l'air qui montrent aussi, il y a une littérature là qui commence à arriver, sur l'effet délétère de la pollution. Vous voyez, quand je dis « ça commence à arriver », ça veut dire que les publications sont là, ça veut dire que les travaux ont précédé de quelquefois une décennie ces publications. Ça veut dire aussi que finalement, il y a toujours des nouveaux facteurs qui apparaissent. Tous les jours, on découvre de nouveaux facteurs de risque. Et c'était en 2020, Gilles Livingstone a produit ce papier qui a fait beaucoup parler de lui, qui finalement a voulu simplifier le message en disant eh bien, il y a 40% des cas de maladie d'Alzheimer qui pourraient être évités. Qui pourraient être évités si on agit sur les facteurs de risque que l'on connaît, qui sont ceux-ci, ceux dont je viens de vous parler, hein, le niveau d'éducation, les troubles auditifs, les traumatismes crâniens, l'hypertension, l'inactivité physique, etc. Et elle dit, ben, finalement, aujourd'hui, on le sait, il y a 40% des cas de maladie qui pourraient être évités. Alors, elle a pas complètement tort, mais elle n'a pas complètement raison, dans le sens où, finalement, c'est vrai. Il y a 40% des cas qui pourraient être évités, à condition que tous ces facteurs-là soient réellement la cause de la maladie d'Alzheimer. Et ça, on ne le sait pas encore. Il y a une association de risques, mais on n'est pas certain que ces facteurs soient la cause de la maladie d'Alzheimer. Et l'autre chose, c'est qu'elle fait l'hypothèse qu'il suffit qu'on vous dise « allez bouger » pour que vous alliez bouger. Et alors là, on a comparé chez des gens qui étaient très volontaires pour faire tout ce qu'il fallait bien faire. C'est-à-dire, on a comparé des gens qui étaient inclus dans un essai de prévention qui s'appelle Finger, qui était en Finlande, et des gens qui étaient inclus dans le même type d'essai en France, un essai qui s'appelle MAPT. Et on a regardé, en leur demandant de faire des choses, qui faisait les choses et qui ne les faisait pas. Et on s'est rendu compte de façon assez grossière, vous voyez ça ici, c'est dans l'étude finlandaise, Finger. On s'est rendu compte que quand on demande à quelqu'un d'aller faire des consultations pour gérer ses facteurs de risque cardiovasculaire, il y va. C'est facile, hein. On va voir le médecin, il faut aller voir le médecin, on y va, on le fait, et on le fait à plus de 90% des cas. Chez des gens volontaires, hein, au départ, hein. Ils ont signé. Ensuite, on leur donne des conseils nutritionnels sous forme de groupes. Hein. Donc là, c'était toutes les semaines, des groupes, des sessions de groupe. On leur dit ce qu'il faut manger, comment il faut manger. Là, déjà, ça commence à diminuer un peu, mais quand même, on est assez adhérent. Et puis, on leur demande de faire de l'activité physique. Là aussi, hein, c'est des groupes. Ils ont signé, ils ont dit « oui, oui, je m'engage pendant 5 ans, je vais le faire ». Ils le font, mais ils le font moins. Et ce qu'ils font vraiment le moins, c'est la stimulation cognitive. C'est-à-dire, ce sont des groupes, ils ont dit « ok, je participe à cette étude », mais finalement, ça, dans Finger, alors elle ne le dit pas trop là, le PI de cette étude, mais il n'y a que 30% des gens qui suivaient ces recommandations en matière de stimulation cognitive. Donc vous voyez que quand on vous dit de faire des choses, il y a des choses que vous faites spontanément, puis il y a des choses qui sont plus difficiles parce que changer le mode de vie, vous voyez, la nutrition, l'activité physique, c'est changer le mode de vie. Rentrer dans des groupes pour faire des tests cognitifs et pour s'entraîner à la mémoire, ça modifie aussi pas mal. Ça prend du temps, hein. Cette étude Finger, elle est merveilleuse, mais elle prend énormément de temps. Nous, à Toulouse d'ailleurs, parce que certains d'entre vous peut-être ont participé, il y a eu l'essai MAPT qui a fait finalement une étude assez proche. Et là, on demandait aux gens de prendre des supplémentations, ce qu'ils faisaient très bien. Et par contre, les séances multidomaines, ils le faisaient un petit peu moins bien. Ils faisaient quand même pas mal, mais un petit peu moins bien. Donc, vous voyez que quand on prend ensuite le même indicateur commun dans les deux études, ben finalement, ils étaient beaucoup plus adhérents dans l'essai MAPT, c'est dans l'essai toulousain. Donc, les gens à Toulouse sont beaucoup plus adhérents qu'en Finlande. C'est pas mal, hein ? Sauf que l'étude finlandaise, elle a marché, mais pas l'étude toulousaine. Alors, elle a marché, je vais vous expliquer pourquoi, et ça rejoint ce qui a été dit un petit peu ce matin. Elle a marché parce qu'on a essayé de démontrer les choses. Quand je vous dis que ces facteurs de risque, ils arrivent tout au long de la vie, c'est vrai, ils arrivent tout au long de la vie. Mais finalement, quand on fait ces études, c'est ce qu'on appelle de l'épidémiologie. Ce sont des études d'observation. Et les études d'observation, elles ne font que mesurer ce que les gens font dans la vie. Mais peut-être que ce qu'ils font dans la vie, c'est peut-être déjà la conséquence d'autre chose. Peut-être que si les gens ont un isolement social, c'est peut-être la cause de la maladie d'Alzheimer, mais c'est peut-être la conséquence. Donc, c'est pour ça qu'on aime bien, pour démontrer la preuve de l'existence d'un facteur de risque, mettre en place des essais, comme on fait pour les essais thérapeutiques, hein, l'aducanumab, mais au lieu de donner l'aducanumab, on demande aux gens de faire une activité physique ou d'avoir des activités nutritionnelles adaptées. Alors, on a fait une synthèse de tous ces essais parus dans le monde depuis 1998, et on se rend compte que la plupart sont négatifs. Très peu sont positifs, très très peu. Et alors pourquoi ? Pourquoi ces études sont positives alors même que la maladie d'Alzheimer diminue, sont négatives ? Ces études sont négatives parce qu'il est difficile de changer à long terme la vie des gens. Et ces études, elles sont à court terme. Donc à court terme, les choses ne bougent pas beaucoup. La prévention, c'est du long terme. C'est pour ça que ça marche. Alors pourquoi finalement, on va quand même terminer par de bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles sont celles-ci, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une diminution du nombre de cas de maladie d'Alzheimer. À un âge donné, le risque de développer la maladie d'Alzheimer, il est moins élevé qu'il ne l'était il y a 20 ans. Bien sûr, on a de plus en plus de cas de maladie d'Alzheimer parce qu'on a de plus en plus de cas, de sujets qui arrivent à un âge où ils peuvent développer la maladie d'Alzheimer, et c'est l'évolution démographique. L'évolution démographique, c'est de la mathématique. Si on ne change pas le risque de développer la maladie, on va avoir une pandémie de maladie d'Alzheimer, tout simplement parce qu'on a de plus en plus de gens qui arrivent à l'âge âgé, et non seulement ça, chacun d'entre eux vit plus longtemps que les prédécesseurs sur cette planète. Donc finalement, on vit chacun d'entre nous plus vieux et on est de plus en plus nombreux à arriver à un âge avancé. C'est pour ça que mathématiquement, il y a plus de cas et on en voit plus. Mais à un âge donné, votre risque est moins important que ceux de vos parents ou de vos grands-parents, s'ils avaient pu vivre aussi jusqu'à cet âge-là. Alors pourquoi ? Donc on s'en est rendu compte parce qu'il y a des travaux qui ont été menés dans des pays à haut niveau de revenus, comme l'Europe et l'Amérique du Nord. On retrouve dans ces continents-là une diminution de ce qu'on appelle l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas de maladie d'Alzheimer. Et ça, par contre, on ne le retrouve pas dans d'autres pays, comme la Chine, comme l'Inde, comme l'Afrique, dont on a vu qu'ils allaient aussi avoir un vieillissement de la population. Comment on explique ça ? Pourquoi il y aurait aujourd'hui un risque pour un individu donné moins important ? Eh bien, il y a un risque moins important parce que le niveau d'éducation des personnes a nettement évolué dans le bon sens. On a beaucoup mieux géré nos facteurs de risque cardiovasculaire. Donc finalement, on est face à un effet collatéral positif de la prévention cardiovasculaire, alors qu'on aurait pu s'attendre à l'inverse, hein, puisqu'on a de plus en plus de diabétiques et d'obèses. Finalement, on s'intéresse de plus en plus à cette maladie, on aurait dû avoir l'inverse. Et au contraire, on a moins de cas. Donc voilà un petit peu l'effet bénéfique. Alors, ces grands essais de prévention, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je pense qu'on est pris par le temps, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment c'est lourd. Et pourquoi on veut démontrer ça ? Parce que les Américains nous disent, mais ça ne sert à rien de démontrer tout ça. On le sait que si on fait de l'activité physique, c'est mieux. On le sait que s'il faut faire de la avoir une alimentation équilibrée, c'est mieux. On le sait qu'avoir une stimulation cognitive, c'est mieux. Donc pourquoi mettre en place ces essais qui coûtent entre 15 et 20 millions d'euros, hein, ça dépend par le plus petit bout. Pourquoi mettre en place tout ça, finalement, pour démontrer que ça marche ? Eh bien, on le fait parce que, je ne sais pas vous, mais moi, si on ne démontre pas l'effet de Finger, je ne le fais pas. C'est-à-dire que tous les 3 mois, je vais voir quelqu'un qui va me checker mes facteurs de risque cardiovasculaire. Pendant 1 an, je vais faire 7 sessions de nutrition, 3 séances individuelles. Pareil pour l'activité physique pendant 2 ans. Pareil pour l'activité cognitive pendant 2 ans. Donc si on n'arrive pas à démontrer l'efficacité de ce genre d'intervention, et surtout le coût, l'efficacité de ce genre d'intervention, ça ne pourra pas être diffusé en population générale. Donc comme Bruno Vella, c'est parti, je vais zapper sur MAPT, parce que c'est à peu près la même chose. Mais ce qui est intéressant dans MAPT, c'est ça quand même, c'est assez joli. C'est-à-dire que dans Finger, ça a marché. Quelle est la population qu'elle a pris, cette Finlandaise ? Elle a pris des gens qui étaient à risque de développer la maladie d'Alzheimer, avec ce fameux algorithme-là dont on parle. C'est quoi cet algorithme qu'elle a utilisé ? Un algorithme qui avait été validé en Europe, hein, qui disait que, voilà, quand on avance en âge, on a plus de risques de développer la maladie d'Alzheimer. Quand on a un bas niveau d'éducation, on a plus de risques. Quand on est un homme, on a plus de risques. Quand on a une hypertension artérielle, on a plus de risques. Quand on a un surpoids, on a plus de risques. Et quand on a du cholestérol, on a plus de risques. Et si on est inactif sur le plan physique, on a aussi plus de risques. Avec cet algorithme, on a un score, je ne vous donne pas le seuil, parce que si, il est là. Si on a un score supérieur ou égal à 6, à l'âge moyen de la vie, c'est-à-dire entre 35 et 50... Alors, plus ça va, plus l'âge moyen de la vie, je suis en train de le... Bref, entre 45 et 55 ans, quand on a un score élevé, on est plus à risque de développer la maladie. Mais vous voyez, tout le monde utilise ce score, mais à 65 ans ou à 85 ans, il n'a pas été validé. Donc il faudrait retravailler ces hypothèses, refaire des algorithmes pour voir si ça reste vrai quand on avance en âge.
En tout cas, moi, j'entends qu'on est loin d'être passif par rapport à tout ça. Je vois que vous avez chaussé vos baskets. J'ai compris qu'il ne fallait pas rester assis trop longtemps. Donc, on va vous permettre dans quelques instants de bouger aussi. Un grand, grand merci pour toutes ces bonnes nouvelles et pour nous avoir rappelé qu'on est aujourd'hui moins à risque que nos mères ou que nos grands-mères.
Voilà.
Mais que ça signifie quand même qu'il faut se prendre en main et être actif physiquement, socialement. C'est vraiment des messages qu'on ne doit pas arrêter de répéter.
Non, tout à fait. Et tout au long de notre vie. C'est ça aussi, hein, le message.
Sans limite d'âge. Merci beaucoup, professeur Sandrine Andrieux.